Chapitre 13, jour de faillite. Everybody counts, or nobody counts. Michael Connelly. La dernière personne à avoir aperçu Alice Dixon, vivante, était une caméra de surveillance. Sur la vidéo, prise au croisement de Pickle Cross, on distinguait la silhouette frêle de la jeune fille descendant du bus, son sac à dos sur l'épaule. On la voyait clairement tourner au coin de la rue pour prendre la contre-allée qui menait à son collège. Un itinéraire de moins de 800 mètres. Et puis, plus rien. Des jours de silence, d'indifférence et de mystère. Personne n'avait rien vu, ni rien entendu. À croire qu'Alice s'était volatilisée. Comme toutes les grandes villes d'Angleterre, Manchester était truffée de milliers de caméras. Depuis 10 ans, une politique de vidéosurveillance de grande ampleur avait tapissé chaque recoin de la cité. Un citoyen pouvait ainsi être filmé jusqu'à 300 fois par jour. Un moyen imparable pour lutter contre la délinquance. Du moins, dans le discours des politiciens, car dans la réalité, c'était une autre histoire. Faute de fonds suffisants, le matériel était souvent défectueux. Le matin de la disparition d'Alice, tous les appareils qui balayaient le secteur du collège étaient détériorés ou déréglés, leur image brouillée ou inutilisable. Dans les jours qui suivirent, Madeleine mobilisa 150 policiers pour fouiller les appartements, les caves et les jardins dans un rayon de 3 km autour de l'école. On recueillit le témoignage de centaines de personnes, on mit en garde à vue les pédophiles connus, et on remonta la piste d'une camionnette blanche suspecte que plusieurs élèves avaient repérée. Persuadée qu'elle portait une lourde responsabilité dans la disparition d'Alice, Madeleine plaça Erin Dixon en garde à vue, l'interrogeant pendant plus de 20 heures. Pour la policière, Erin était une vampire, totalement asservie au crack, capable de tout pour une dose, y compris de vendre sa fille à un réseau de proxénètes. Mais son audition n'apporta pas grand-chose. Sur le conseil de son avocat, Erin réclama de passer au détecteur de mensonges, une vaste fumisterie, et passa le test avec succès. Elle ressortit libre de son interrogatoire et se paya le luxe, devant les caméras, de lancer avec des trémolos dans la voix un appel à d'éventuels ravisseurs. Le service informatique du commissariat pirata facilement le mot de passe de l'ordinateur d'Alice. Heathcliff, comme le héros des hauts de Hurlevent, son roman préféré. Malheureusement, ni l'analyse du disque dur, ni celle de la boîte mail ne débouchèrent sur la moindre piste sérieuse. En parcourant le journal intime d'Alice, Madeleine découvrit que l'adolescente avait l'habitude d'enchaîner les petits boulots en mentant sur son âge. C'était comme ça qu'elle trouvait de l'argent pour se payer ses livres et ses sorties culturelles. Ces derniers mois, elle avait travaillé au Soul Café, un bar d'Oxford Road dans le quartier universitaire. Arrêté et inculpé pour avoir embauché une mineure, le patron fut mis hors de cause concernant l'enlèvement. Le 15 décembre, des plongeurs draguèrent sur plus de 2 km la rive ouest de l'Urk. D'autres, l'étang de Rockwell, situé à 400 mètres de l'école. Ils remontèrent plusieurs carcasses de voitures, des caddies, une mobylette, 2 réfrigérateurs et plusieurs barrières de sécurité. Mais aucun corps. Jim éplucha tous les appels reçus et passés sur le portable de la jeune fille. Tous ses contacts furent interrogés. Leur audition ne donnèrent aucun résultat. Noël passa sans que l'enquête progresse d'un pouce. Madeleine renonça à ses vacances. Elle commença à prendre des médicaments pour trouver le sommeil et pouvoir dormir quelques heures. Ce n'était pourtant pas une débutante. Ça faisait des années qu'elle travaillait dans ce quartier sinistre. Des années que la violence et l'horreur faisaient partie de son quotidien. Des années qu'elle se coltinait des scènes de crime, des autopsies et des gardes à vue d'individus de la pire espèce. Elle avait traqué des tueurs, arrêté des violeurs et des dealers, confondu des pédophiles, démantelé des réseaux de narcotrafiquants. S'il fallait compter, elle avait œuvré sur des dizaines et des dizaines d'homicides. 3 ans plus tôt, elle était même passée près de la mort, lors d'une fusillade entre 2 gangs. Une balle de 357 Magnum l'avait effleuré, déchirant un peu la peau de son crâne et lui laissant une cicatrice qu'elle peinait à camoufler par ses mèches de cheveux. Sa vie, c'était l'enquête. Même si l'enquête impliquait l'obsession, la solitude et la mise en danger permanente. Même si l'enquête vous transformait en fantôme pour vos amis, votre famille et vos collègues. Mais dans le cas présent, n'était-ce pas justement le prix à payer ? Devenir soi-même un fantôme pour retrouver un autre fantôme ? En janvier, Jim et son équipe examinèrent les appels téléphoniques passés à proximité de la borne relais la plus proche de l'école dans les heures qui avaient précédé et suivi la disparition d'Alice. Le nom de leur auteur fut croisé avec les fichiers de la police. Plus de 200 étaient connus, le plus souvent pour des délits mineurs. Tous furent auditionnés, leur emploi du temps fut vérifié, leur logement perquisitionné. Parmi eux se trouvait un homme de 50 ans, Fletcher Walsh, condamné pour viol 20 ans plus tôt et propriétaire d'un break blanc. En apparence, l'alibi de Fletcher Walsh tenait la route, mais en fouillant son garage, la brigade cynophile trouva des traces de sang à l'arrière de son véhicule. Les prélèvements furent envoyés au service médico-légal de Birmingham et la police surveilla Walsh 24 heures sur 24 dans l'attente des résultats. Le 13 février, le porte-parole de la Manchester Greater Police annonça que les analyses de traces de sang trouvées dans le break de Fletcher Walsh ne permettaient pas d'affirmer avec certitude qu'elles appartenaient à Alice Dixon. Puis, l'intérêt médiatique retomba. Les effectifs policiers affectés à l'enquête furent déployés ailleurs. L'enquête piétina. Toutes les nuits, Madeline continuait à rêver d'Alice et à être hantée par son regard. Chaque matin, elle se levait en espérant trouver un nouvel indice ou un début de piste que l'on aurait négligé. Ses collègues et ses supérieurs l'avaient toujours considérée comme un flic solide. Mais cette fois, elle perdait pied. Elle s'était construite sur des fondations incertaines, faites d'un blindage protecteur qui n'excluait pas une réelle compassion. Elle n'était même jamais meilleure que lorsque la peine des victimes devenait sa propre peine. Une proximité dangereuse, mais qui la rendait efficace. C'était ce qui s'était passé avec Alice. Dès le premier jour, sa disparition l'avait dévastée. Cette gamine lui rappelait trop l'adolescente qu'elle avait été. Une identification troublante, un lien confus, un attachement viscéral. Un sentiment qu'elle savait ravageur, mais contre lequel elle n'essaya même pas de lutter. Ce n'était pas seulement une affaire personnelle, c'était plus que ça. La certitude qu'elle était au fond l'unique personne à se soucier vraiment du sort de la jeune fille. La sensation d'avoir remplacé sa mère et de porter sur ses épaules la responsabilité de sa disparition. Cette nuit-là, elle se fit une promesse. Si elle n'était pas capable de retrouver Alice vivante, jamais elle ne ferait d'enfant. L'impuissance la submergeait. Parfois, c'était encore pire que si on lui avait annoncé sa mort, car elle n'arrêtait pas d'imaginer ce qu'Alice devait éprouver. Des images lugubres et oppressantes envahissaient son esprit. Pour se raccrocher à quelque chose, elle alla jusqu'à consulter un médium. En palpant un habit ayant appartenu à Alice, le charlatan assura que la jeune fille était morte et donna l'adresse du chantier où reposait le corps. Madeline mobilisa une équipe pour le fouiller de fond en comble. En pure perte. En apprenant ce dérapage, son chef lui conseilla de prendre quelques jours de repos. « Il faut voir la réalité en face. Alice Dixon a disparu depuis 3 mois. » C'est tragique, mais à ce stade, vous savez très bien que les chances de la retrouver sont quasi inexistantes. Il y a d'autres enquêtes et d'autres dossiers sur lesquels on a besoin de vous. Mais Madeline se sentait incapable de travailler sur d'autres enquêtes et d'autres dossiers. Elle était prête à tout pour conserver un fragile espoir de retrouver Alice. Alors, elle se résolut à rendre visite au diable en personne.